Bien, bonjour à tous, c'est bien sûr votre émission Dans les pas du docteur Francus avec une rediff, bien sûr une rediff qui est durant tout l'été des émissions que vous avez pu entendre dans le courant de l'année. Alors évidemment, cette rediff, c'est un patchwork un peu de tout ce que nous avons diffusé durant l'année 2018 et le début de l'année 2019. Et donc, on retrouve des choses intéressantes, notamment pendant cette émission de cet été, vous allez même pouvoir entendre parler de Noël. Donc, vous voyez, c'est assez magique puisque on change de période de l'année et dans cette chaleur épouvantable de l'été, eh bien, un peu de frais de Noël n'est pas fait pour déplaire aux auditeurs. Alors pour démarrer donc cette nouvelle émission du samedi, eh bien on va se retrouver avec une dame américaine extraordinaire avec une voix absolument fabuleuse, Madame John Baez.
And so I'll sing some songs from 30 years ago, some songs from 15 years ago and some songs from now. This one is from the middle. I think you know it. Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles, the trumpets play slow. Farewell, Angelina. And I must go. There's no need for anger, no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty on the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is falling and I must leave. Well, Jack and the Queen have forsaken the courtyard, and the 52 gypsies now file past the guards. In the space where the Jews and the ace once ran wild, farewell, Angelina. The sky's changing color. I'll see you in a while. King Kong, little elves on the rooftops they dance. Valentino type tangos while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. Farewell, Angelina. The sky's in the mast, and I must be gone. The machine guns are roaring, and the puppets heave rocks, and fiends nail time bars to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina. The sky is erupting. I must go where it's quiet.
Voilà, Madame John Baez, dans ce fabuleux morceau de bravoure. Farewell, Angelina. Salut, au revoir, Angelina. Bref. Alors, on va parler maintenant, on va avoir un petit moment intéressant puisque c'est Eric qui est notre co-animateur, bien sûr, de cette émission que vous connaissez tous maintenant et qui nous raconte un petit peu l'histoire de sa vie. Et je trouve ça tout à fait attachant et intéressant. Donc, Eric nous parle du moulin de Lodi, puisque Eric était meunier avant d'être un grand animateur sur les ondes.
Deux à trois chauffeurs, une personne à la vente, deux commerciaux, une personne pour la comptabilité, 900 mètres carrés de superficie. Le blé arrive nettoyé, mouillé, il est pesé et tous les 10 kilos évacués dans des broyeurs sur de gros cylindres cannelés. 100 kilos de blé, 79 kilos de farine sont réalisés grâce au bon réglage des cylindres et au contrôle de l'humidité. Le blé est écrasé, aspiré vers des blanchistères, merci, jusqu'au convertisseur. Il s'agit de récupérer le maximum de farine avec les restes. Voilà Eric, alors c'est vraiment un grand moment de ta vie, oui. Le moulin de Lodi, et je voudrais vraiment que tu nous parles d'abord du moulin, et puis deuxièmement du pont du moulin, et tout ce qui s'est passé. Je crois que pour toi c'est quand même un moment de ta vie incroyable, et j'aimerais vraiment qu'on partage ça.
Oui, le moulin de Lodi, 26 ans de ma vie où j'ai travaillé avec mon frère, avec le papa quand il était encore avec nous. Alors, une grande pensée à mon père et ma mère, qui ont racheté cette entreprise à la famille Ponce d'Armée, dans les années 50. Quelques mois après l'achat, mon papa s'est fait prendre le bras dans une machine. Le bras a été arraché. Il était amputé du bras droit alors qu'il était droitier. Et il nous allait donner une grande leçon de vie, puisque malgré cet handicap, il a continué pour nous faire vivre. Il a tout réappris de la main gauche, à travailler, à conduire des camions, à tenir son entreprise. Et c'est un moment douloureux pour moi, je dirais, d'en parler. Parce que j'avais fait une petite chanson il y a quelques temps sur qu'Anne-Lou aime beaucoup. C'est ma mémoire se rappelle, je vous dis juste les premières lettres. Le bord de la rivière, les genoux écorchés, le moulin de mon père qui sentait bon le blé, les câlins de ma mère, les gâteaux parfumés, tout cela c'était hier, mais je n'oublierai jamais. Non, j'oublierai jamais tout ce que le papa a fait pour nous. Maman qui l'a épaulé, puisque les premiers temps, il fallait travailler la nuit. Donc, pendant que papa se reposait, maman était là, à ses côtés. C'est des couples comme on aimerait en voir plus. Et jusque les années 2000, nous avons grossi l'affaire avec mon frère. On avait deux départements à livrer. On en a eu quatre à la fin, Drôme, Ardèche, Isère, Vaucluse. Et mon frère a décidé, dans les années 2000, d'arrêter. Donc on a revendu les droits de mouture, le fonds de commerce. Et c'est vrai que ça a été douloureux pour moi cet arrêt. Maintenant je le vis mieux, parce que si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et les années 2008, une grosse catastrophe qui est venue s'ajouter, psychologiquement ça a été très dur pour moi. Le seul accès de nos bâtiments, le pont, s'est écroulé dû à une crue. Alors, j'étais assez serein en me disant, les années 2000, la solidarité va marcher, on va être aidé. Les communes sont venues nous voir en nous disant, nous n'avons pas les moyens, je le comprends tout à fait. Mais je pensais qu'on allait être épaulé, avoir des portes qui allaient s'ouvrir. On a essayé de faire des liens sur Internet, à faire appel à la générosité des gens, à même appeler des émissions qui passent fréquemment à la télévision, qui aident les gens dans des maisons qui sont vétustes. Nous n'avons eu que très peu de réponses, si ce n'est que des parents ou des gens qui ont entendu la radio à l'époque ou vu les journaux et qui ont fait, à la mesure de leurs moyens, des petits chèques. Il n'y a pas eu grand-chose, mais je tiens à les remercier aujourd'hui. Ce que j'aurais surtout aimé, c'est pas simplement faire un chèque, c'est un coup de téléphone. Dire on pense à toi, on est là dans ces moments.
Oui, on se sent seul là.
Voilà, ouais, tout à fait. J'ai très très mal vécu de 2008 à 2012 où nous avons refait le pont. Donc on a cherché des solutions parce que les premières solutions c'était 317 000 euros hors taxes. Pensez bien, on est deux familles, deux propriétaires, il était hors de question. 311 000 euros en bois. Donc on a attendu ces quatre années pour essayer de chercher les solutions les plus adaptables et puis financièrement.
Alors comment vous faisiez, parce que finalement il y avait plus accès à Vernoux, quoi, vous étiez isolé en quelque sorte.
On n'avait plus qu'une petite tranche d'un pont, puisque le pont était en deux parties.
D'accord.
Et L'ancien pont est resté, mais juste le passage d'un homme. Donc on laissait les voitures, d'abord il faut expliquer quand ça s'est passé, les voitures étaient du mauvais côté, donc coincées. On a fait appel à un camion grue qui est venu, en étant bien sûr payé, enlever les voitures et les passer de l'autre côté. On traversait donc ces 15 mètres à peu près de pont sur juste le passage d'un homme. Et on prenait nos voitures pour aller aux courses et au travail.
Pour aller coincer, oui.
Ouais. Mais on s'est senti vraiment isolé, oui, vraiment seul. Vraiment seul. Donc on a essayé de calculer, on est arrivé. Ce qui nous pénalisait, c'était la largeur de la rivière, qui permettait d'avoir un pont trop large, donc c'est ce qui prenait le plus d'argent dans ces projets. Et on a. Alors je ne sais pas si je peux citer les entreprises.
Mais oui, on s'en fout. Mais entre nous, de toute façon, il y avait deux auditrices, c'est tout. Donc
on a fait appel à Monsieur Brun, qui est travaux publics à Saint-Michel-de-Chabrianou, qui on a demandé un enrochement qui a été plus qu'honnête, puisqu'il nous a dit qu'il vaut mieux faire en maçonnerie. Uh-huh. L'enrochement, il avait peur que ça parte.
D'accord.
Donc on l'a retenu, lui, pour préparer le terrain, uh-huh, dans la rivière, faire les emplacements. On a pris après la maçonnerie de Châteauneuf-de-Vernou, Monsieur Machissot, qui sont venus faire les bases.
Oui, les arches, quoi.
Ouais. Enfin, il n'y a plus d'arches. Alors, on a gardé une arche, l'ancienne arche, lorsqu'on a été aussi là confronté à un double souci, puisque l'arche ne pouvait pas être accolée à une dalle, avec des poutres en fer. Avec la dilatation, ça risquait. Donc, il a fallu faire deux ponts en un, ouais, avec un joint de dilatation.
D'accord.
Et la partie dessus, on l'a fait avec... notre voisin,
monsieur. Oui, c'est ça, c'est toi et le voisin, vous avez
monsieur Lonza, oui, et les enfants qui sont venus nous aider, ouais, pour faire les dalles, pour que ça revienne le moins cher possible et qu'on puisse économiser quelque argent.
Bien sûr.
Pour.
Quelle aventure.
Bon.
Oui, alors ça, il faut le faire, quoi, je veux dire. Parce qu'il y a quand même peu de gens qui ont eu un parcours comme le tien. Hein, c'est d'autant plus intéressant de t'avoir avec nous.
Très mal vécu, après, avec des soucis de la vie qui se sont. Ajouté à tout ça, j'ai fait une dépression de 2 ans.
Ouais, bah,
mais bon, c'est derrière moi, maintenant,
ouais,
il faut avancer. Alors, comme je dis, c'est un grand merci à tous ceux qui ont été là.
Ouais,
je n'en veux absolument pas aux gens qui...
Ouais,
c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai retenu sur la chanson de Nicolas Perrac, l'amour pourrait changer le monde.
Bah oui, c'est ça.
Et on le revoit donc dans les marchés où ces jeunes qui viennent, quel que soit l'endroit de la France, sont là avec des idées, de l'amour, parce qu'on le voit, ils sont vraiment solidaires les uns
tout
les autres. Et comme l'a dit très bien M. Jean-François Michel, Jean-Pierre Porte, moi je suis confiant sur l'avenir.
Oui, c'est ça quand même. Enfin, en tant que Vernouzin, moi j'aimerais aussi t'interviewer là-dessus, parce que finalement, bon, on va encore parler après du comité des fêtes, mais bon, Vernou, est-ce que Vernou est en perte de vitesse? Est-ce que Vernou va aller vers l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi?
Moi je suis confiant sur l'avenir. La perte de vitesse, oui, par rapport aux braderies qu'on a vues avec 15 000 personnes obligatoirement.
Ouais, bon, mais ça, c'était un truc exceptionnel.
Voilà. Même si on reprend sur les embrasements de l'église qui a eu lieu les années 2000 où on avait 2000 personnes.
Éric, à ce sujet, l'église de Vernou, elle a quand même une caractéristique incroyable.
La plus haute de l'Ardèche.
Bah oui, elle fait combien la flèche
Là, je sais pas.
Autour de 50 mètres, non? J'avais vu ça.
Plus que ça.
Ah, plus que ça.
Oui,
ouais.
Je dirais des bêtises, donc je peux faire mon taire.
Je vais regarder mes trucs. Mais s'il y a quelqu'un de Vernou qui nous écoute et qui connaît la réponse.
Qu'il nous appelle.
04 75 75 29 26 00.
Voilà, on va y arriver.
On va y arriver.
Ouais, moi, je suis confiant parce que je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait une manifestation organisée par quelque association, les Vernouzins ou même les villages aux alentours, fasse l'effort de se déplacer. Simplement, là, d'être solidaires les uns les autres, que ce soit une fête à Vernou, à Sillac, à Châteauneuf, à Boff, ça n'a pas d'importance. Qu'on se déplace les uns pour les autres, et je pense qu'on peut revoir des grands moments de festivité. Et puis, on a aussi la chance d'avoir monsieur et madame Sévenier qui peuvent nous apporter à ceux qui sont intéressés pour rouvrir...
Qu'on va écouter tout à l'heure.
Ah oui, c'est magnifique.
Ouais, tout à fait, ouais, des gens. Alors, il y a quand même une chose aussi intéressante, c'est que, allez, on va lever le voile là-dessus, j'ouvre, je pense que le président ne m'en voudra pas. On est en train de mettre en place un studio mobile qui existe déjà, il y a un studio mobile, mais là, cette fois-ci, avec une communication directe depuis un événement vers la radio. Tout ça avec des systèmes qui sont des systèmes informatiques qui sont assez complexes. Donc on a des gros problèmes de connexion et tout comme ça. C'est des systèmes qui sont des systèmes professionnels que tous les journalistes utilisent dans le monde entier. C'est des systèmes hollandais. Donc on s'est équipé avec le système. Après, il faut qu'on arrive à le connecter. Mais disons qu'on pourra, en direct, donner des nouvelles d'une manifestation. Moi, je me déplacerai avec grand plaisir pour aller là, et toi aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc on va pouvoir faire ça, et ça c'est extraordinaire aussi, parce qu'en fait les gens seront au courant de ce qui se passe dans les régions et tout, et moi je crois que c'est essentiel, hein.
C'est essentiel, c'est très important que la communication, la publicité puisse être faite.
C'est fondamental.
Ah oui,
c'est fondamental, parler des événements. Sacha?
Ouais, non, puis en plus avec un studio mobile, ça nous permet de faire un direct durant, par exemple, un festival à tel endroit ou à tel endroit, et avoir des personnes voilà quoi, qui interviennent, nos auditeurs ou d'autres qui viennent pour intervenir, parler de certaines choses. Ça nous permet d'avoir un petit peu quelque chose de pas de novateur, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais quelque chose d'authentique, quoi. C'est-à-dire, y a quelqu'un qui vient, qui veut nous présenter quelque chose. On sait pas, ne serait-ce que sur un marché, forcément, un petit studio de radio comme ça, mobile, et
Et surtout en direct, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est
important. Ça nous permet voilà, de découvrir les choses et puis de partager les choses avec, on est quand même sur 3 départements à peu près, sans parler de l'international avec Internet. Si l'on reste uniquement sur le hertzien, déjà, on peut parler de choses, où les gens, ils seraient pas au courant de qu'est-ce qui se passe en ce moment.
Tout à fait.
Oui, et puis il faut savoir quand même que des émissions comme RDB les proposent sont le lien avec des personnes dans les villages isolés. Surtout, moi, j'ai travaillé en EHPAD, des personnes qui attendent Gégé, Jojo, jeudi, entre autres, Peter, le dimanche matin
tout à fait,
et d'autres émissions que vous faites très, très bien, et qui sont là, qui attendent vraiment ce lien qui devient un lien presque amical, presque familier.
Voilà, merci Eric. Donc effectivement, d'ailleurs Jojo et Gégé, on va entendre parler d'eux dans le courant de cette émission, puisque est prévu un interview de nos deux animateurs du patois. Un coup de Nicolas Perrac, tiens, ça c'est sympa aussi, hein.
Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz, où traînent encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. La Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. From LA, for the good from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Ouais, c'est vrai que Perrac, ça se démode pas, hein. Toujours aussi bon. Bon, il a pas fait beaucoup de chansons, mais il a marqué son époque, et je dois dire que, bon, moi j'aime bien. Alors, je sais pas s'il a fini ses études de médecine, mais toujours est-il que, bon, il a, comme chanteur, il se débrouillait plutôt bien. C'est traditionnel maintenant, vous le savez. Nous avons absolument envie
début juin, l'émission
de vous faire découvrir
cette
chanson.
Comme je vous l'ai dit à l'époque à Jacques Martin, en chantant Mademoiselle Angèle. Et donc, nous retrouvons ce morceau de bravoure. Je pense qu'il n'y a pas d'autre définition que d'arriver à dire ce morceau de bravoure en ce qui concerne cette chanson. Avec la bande-son de Mademoiselle Angèle. Allez, accrochez-vous.
Frappe au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des bonnets de coton. Ah, 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 je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Ça va beaucoup mieux. Tiens.
Je frappe au numéro 2, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Peut-être parce qu'on n'a pas le retour pour voir ce qu'on fait mieux.
Ouais. Je frappe au numéro 3, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons, et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Ah oui, c'est extraordinaire.
C'est lui recherché.
Voilà, donc Mademoiselle Angèle, maintenant le générique de notre émission dans les pas du docteur Francus. Si vous avez envie de chanter d'ailleurs en même temps que nous, n'hésitez pas. Alors, on a parlé tout à l'heure de Moulin. Eh bien, on va, dans le cadre d'une émission qu'on avait fait pour Noël, on avait repris un petit peu les lettres de Mon Moulin, et je vous propose Le secret de Maître Corneille.
Alphonse Daudet, dans ce magnifique conte qui aurait pu être un conte de Noël, puisque c'est un secret. C'est un secret, c'est le secret de Maître Corneille, qui était le propriétaire du moulin avant Alphonse Daudet.
Alors, on m'a offert, justement, pour Noël, je ne sais pas quel âge j'avais, 4-5 ans, quand on commence à lire, on va avoir 4-5 ans.
Ouais,
justement, ce livre-là. C'est ma sœur Yvette, ma sœur aînée, qui me l'a donné, ce livre, Le secret de Maître Corneille. Eh bien, figure-toi que je l'ai toujours. Et pourtant, il est passé entre toutes les mains de mes neveux et nièces, et je l'ai toujours.
Le secret de Maître Corneille. Un moment formidable.
Français Mamaille, un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame du village dont mon moulin a été témoin il y a quelques 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché, je vais essayer de vous le rendre tel que je l'ai entendu. Imaginez-vous pour un moment, cher lecteur, que vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il est aujourd'hui. Autre temps, il s'y faisait un grand commerce de meunerie. Et dilué à la ronde, les gens des masses nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins, des ribambelles de petits ânes chargés de sacs, montant et dévalant le long des chemins. Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement de la toile et le « diahu » des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, et leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins avant restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte et l'un après l'autre pécaillèrent. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes. Les belles meunières vendirent leur croix d'or. Plus de muscat, plus de farandole. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis un jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte, à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il, ces brigands vont pour faire le pain, se servent de la vapeur qui est une invention du diable, tandis que moi je travaille avec le mistral et la tramontane qui sont la respiration de bon Dieu. » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent, mais personne ne les écoutait. Alors, de mal rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille Vivette, une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les masses, pour la moisson, les magnans ou les olivades. Et pourtant son grand-père avait bien l'air de l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pieu par le grand soleil pour aller la voir aux masses où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en revoyant Vivette, avait agi par avarice. Et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille ainsi traîner d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des bailes et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal aussi qu'un homme de renom, du renom de Maître Cornille, et qui jusque-là s'était respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la taillotte en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux. Et Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonne vêpre, Maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donc toujours la meunerie ?»« Toujours, mes enfants !» répondait le vieux d'un air gaillard. « Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque !» Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrage, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement « Motus, ça, je travaille pour l'exportation !» Jamais on n'en put tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille, mais le bruit général était qu'il n'y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâché parce que, après tout, le nom de Cornille était un honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans la maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent l'occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite et je montai jusqu'au moulin pour en toucher deux mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier, il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir la porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte, que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensais que le son me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser et voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, Maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme en partant avait laissé son échelle dehors et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier. Et puis, dans un coin, trois ou quatre sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtras qui promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé les dernières pratiques. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en deux mots et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait, tout le village se mit en route et nous arrivions là-haut avec une procession d'ânes chargées de blé, du vrai blé celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. « Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir. Le moulin est déshonoré. » Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier bien fort comme au bon temps des meuniers. « Ohé, du moulin ! Ohé, Maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main et il disait riant et pleurant à la fois « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé, laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous « Ah, je savais bien que vous me reviendriez, tous ces mignotiers sont des voleurs. » Nous voulions l'emporter en triomphe au village. « Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir ce pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière du froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis un matin, Maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur ? Tout a une fin en ce monde. Et il faut croire que le temps des moulins à vent, était passé comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. Comme nous avions eu le plaisir d'avoir l'un de nos interviewés qui jouait du bagpipe, j'ai pensé intéressant de vous faire écouter ce morceau des Celtic Woman. Vous allez voir, c'est magique. Ce morceau bien connu s'appelle Amazing Grace, n'est-ce pas ? Tout le monde connaît le thème, mais vous allez voir ce qu'elles en font. Quatre voix magnifiques, un bagpipe, un orchestre symphonique. Bon, on dirait c'est pas rien, mais c'est quand même quelque chose. C'est exceptionnel, les Celtic Women. Je voulais absolument que vous puissiez découvrir ce groupe qui est... Oh là là, ça vous prend aux tripes. Ok, dans le style de prendre aux tripes, on a aussi ici, dans nos régions, un duo totalement exceptionnel que je vais vous présenter.
Voilà, je suis dans une ville très fréquentée, d'un pays que je ne connais pas, et j'arrive devant une maison. Je voudrais parler à ces gens que je ne connais pas encore. Alors, je vais sonner. Et peut-être va-t-on m'ouvrir. La porte s'ouvre tout doucement. Une dame apparaît. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Alors là, j'ai un petit souci parce que je comprends pas ce qu'elle me dit.
Caouché, vous connaissez pas, yeu. Mais je suis bloqué ici, quand même. Hein?
Oui, je suis de Radio des Boutières, RDB, si vous connaissez.
Oh, un pas, oui. Un petit pas, oui, puisqu'il il travaille de tes gentils.
Alors là, j'ai pas. Il me semble qu'elle me parle de temps en temps. Je vais essayer de rentrer un petit peu parce qu'il fait assez froid. Dans le fond, il y a un monsieur qui est là aussi. Peut-être lui, il va parler français, je ne sais pas, je vais essayer. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Vous comprenez ce que je dis?
Oui, mais parle souvent le patois, excusez-moi, pourriez-vous quand même vous répondre en français, bleu, si vous voulez?
Alors, je pense que peut-être il va essayer de faire un effort en parlant. Et vous, madame, vous parlez français?
Un petit pas, oui, quand même.
Attendez, disais, quante que reconnaissent que la voix. Est-ce que c'est pas Samuel Debar?
Eh bien, oui, effectivement.
Vous êtes Samuel Debar.
Eh bien, vous m'avez reconnu. Et vous êtes Jojo?
Jojo, oui.
Et vous êtes Gégé?
Voilà.
Alors, on va peut-être continuer en français, finalement.
Quelle surprise!
Voilà, alors donc, vous avez bien compris qu'on vous a fait une blague pour ce jour de Noël. Et je retrouve les piliers, il faut bien le dire, de Radio des Boutières, Jojo et Gégé, qui présentent leur émission en patois. Depuis combien de temps exactement?
Eh bien, écoute, on va se dire plus. Hein.
Ah ben, depuis le temps qu'on se connaît.
La première émission qu'on a démarrée sur c'était RCL à l'époque.
Ouais,
c'était le 17 février 1983. Alors, compte comme il y a des années, je crois que ça fait un total de 35 ans. Hein.
Eh ben, dis donc. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand même votre mémoire à tous les deux. Hein. Parce que bon, Jojo, on peut le dire, pas de fausse modestie, t'as passé les 80 ans, là.
Eh bien, j'entends le son d'une cloche qui arrive, ça sonnera 83 ans dans quelques jours.
Ah ben, non, j'espère que les auditeurs te souhaiteront un bon anniversaire.
Ben, merci.
Alors, je voulais vous interviewer parce que d'abord, cette mémoire du Chela, de Radio des Boutières, pardon, que vous avez tous les deux, elle est quand même incroyable. Et on parlait tout à l'heure, en préparant un petit peu cette émission, de souvenirs quand même rigolos dans ces émissions. Alors, Gégé, tu me disais que vous arriviez à avoir combien d'appels parfois dans l'émission?
35, 40 par émission, hein. Je sais pas comment qu'on faisait d'ailleurs, parce que dis donc. Attends, Jojo va nous le dire.
Ah oui, parce que Jojo note tout.
Ah oui.
Donc il a un certain nombre de cahiers, pour pas dire un nombre.
C'est vrai.
Alors, pendant qu'il cherche, donc on va reprendre ensemble un petit peu, finalement. Au départ, le studio était une espèce de cabane prêtée par les établissements Chazalet, qui était à la Palisse, hein,
oui.
C'est ça.
Oui.
Alors, il y avait un détail croustillant de concernant la pluie avec cette...
Ah oui, alors, quand un jour, on faisait l'émission, il pleuvait, il y avait, malheureusement, bon, le toit, il était peut-être pas bien en bon état, il y avait une gouttière. Alors, j'ai ce souvenir, on avait mis une bouteille d'Orangina pour récupérer l'eau, alors, de temps en temps, on entendait plouf, plouf.
Ça passait dans les micros, il...
Mais bon, la bouteille d'Orangina était vite pleine, même que ça ne coule pas beaucoup. Au bout d'un moment, je pense que ça devait déborder. Hein. Oui, oui, oui. Une autre fois aussi, on avait reçu une dame qui, peu chère, n'est plus de ce monde, mais bon. Elle venait pour nous aider à faire le patois. Alors, dans ce studio, il y avait, c'était peut-être en été, je ne me souviens plus à quelle époque c'était, il y avait une espèce de mouche qui se promenait, elle nous cassait un peu l'existence. Elle s'était posée sur le micro, cette mouche, puis cette dame, elle avait un livre à la main. Elle arrive, pom, en plein sur le micro, ça a fait. Les gens, ils ont dû croire qu'il y avait un tremblement de terre.
Alors, cette émission en patois, en fait, elle est venue... qui a eu l'idée, entre vous deux, de faire cette émission en patois?
Bon, alors on a voulu dire quelques mots. Alors, toi, Sam, tu nous as dit, mais pourquoi on ferait pas une émission sur la radio du Chéla en occitan, en patois? Bon, et on s'est mis à, ici, un peu tous les deux à en parler, et on a dit, pourquoi pas. Alors, on s'est dit, bon, on va faire une émission d'Occitan, ça va tenir combien? Un an et demi, peut-être, même pas, hein? Voilà ce qu'on s'était donné les bases, on dit, ça ne passera pas. Oui, bon, on a commencé de faire une émission, tout tranquillou, les gens ont commencé à bien nous téléphoner, c'est chouette, il faut continuer, un encouragement formidable. Et voilà, c'est parti comme ça. Et si on faisait passer les messages en direct sur les ondes pour s'envoyer le bonjour, le bonsoir, des amitiés comme ça, et les dédicaces, ça démarrait dans cette demi-heure. Après, ça a été repris le dimanche par maintenant, et c'est toujours poursuivi. On est très contents de Peter qui fait 2 heures le dimanche, là, super. Hein.
Ah, puis alors, en plus, il est drôle. Hein.
Ouais. Et puis, cette émission qu'on a démarrée le 17 février 1983, et on est au mois de décembre 2018, c'est toujours le même thème. Voilà
ben,
tout.
Ben voilà, comme quoi c'est un bon thème.
Ça a tenu bon, hein. Oui, voilà, on se cramponne comme on peut.
Alors, il y a quand même une autre chose que vous faites, que je trouve assez extraordinaire, c'est les visites, je crois, 2 fois par mois, à l'hôpital.
Une animation à l'hôpital, oui, à l'hôpital du Chéla. Ça fait, on y arrive à la 19e, c'est le mardi, le vendredi qu'on le fait, c'est tous les 15 jours. Alors on arrive, je crois, à la 19e, c'était la 20e, là, au mois de, l'avant-dernier de vendredi de décembre, ce sera notre 20e.
Alors quels sont les thèmes, en fait, dans
ce... Alors on arrive tout autour de la table, autour d'une table, il se trouve une trentaine, un peu moins, et des pensionnaires de l'hôpital. D'accord. Alors on commence à dire bonjour, comment ça va? Ils nous répondent en patois, pas tous, mais des fois on traduit un peu. Ouais. Après on prend chaque fois un thème. J'avais pris le comment le pain à l'envers sur la table que certains ne peuvent pas le supporter. Tout de suite, quand le pain à l'envers sur la table, sur le dos, ils le remettent à l'endroit. Pourquoi? Eh bien, il est sorti beaucoup de chacun à sa façon. Il a dit, bon, il y en a qui l'ont porté malheur, d'autres que...
D'autres que ça faisait pleurer la Vierge, d'autres que c'était le... Mais je crois que c'est finalement la bonne réponse, le pain du riche ou le pain du pauvre. À l'envers, à la boulangerie, le pain des pauvres était à l'envers.
Parce qu'il était rassis ou bien...
Je sais pas. Est-ce qu'il était moins bon? Je sais pas du tout pourquoi. Alors, les riches, quand ils allaient acheter leur pain, on leur donnait du pain, comme il
faut. À l'endroit.
Voilà.
Perdu.
Et les pauvres, on leur donnait du pain à l'envers.
Alors, t'as un souvenir quand même marrant d'une émission qui était, d'un monsieur qui était maire d'un village, qui est malheureusement décédé, enfin pas le village, le monsieur, et donc qui avait eu un petit problème digestif et il s'était quelque peu assoupi.
C'était un monsieur qui faisait sur les... C'est l'histoire de
l'émission s'appelait Le Petit Chose.
Le Petit Chose, il faisait l'émission sur l'ancien temps, le temps des guerres.
Mais c'est ça, voilà, donc je veux dire, il y avait quand même déjà cette volonté de la radio de parler un peu d'histoire, c'est pour ça que votre truc
est essentiel. Alors, ce monsieur le maire, bon, ici, il repose depuis longtemps, le pauvre, ouais. Alors, un jour, il arrive, là, il est présenté, et bon, il a parlé pendant un bon quart d'heure, après, bon, Il y a eu une pause, ce qu'on appelle chez nous une pause musicale. Hein. Et bon, et celui qui faisait la régie, je crois que c'était Betty et Gilles, que bon, c'était le fiston. Alors, et tout à coup, pendant cette émission, cette pause musicale, l'animateur, les coudes sur la table, il poussait presque sa ronflette. Hein. Il était assoupi tant se peut. Et les deux jeunes, ils se demandaient, mais comment on va faire pour le réveiller? Et alors, ce qu'ils ont fait, ils ont choisi, ils ont dit, attends un peu, on va monter le potentiel mètre, et comme ça, ça va faire du bruit.
Voilà, parce que ça rentre dans le casque.
Et donc, oui, dans le casque. Il a fait un truc, il a cru, il a pas su, il est arrivé. Voilà.
Mais enfin, au moins, ça l'a réveillé.
Mais on en aurait beaucoup, parce que dans ces connais-tu ton village, et puis des émissions
comme il y a eu une époque, je me souviens, on interviewait des personnes âgées aussi. Je me souviens de cette vieille madame qui avait une 4 chevaux.
Oh, madame Vigouroux. Ah, Maria Vigouroux. Elle aussi, elle est plus de ce monde. Ah, mais c'était une figure locale du Chélard, cette dame, hein. Et puis elle avait peur de rien, hein. Elle se garait n'importe où dans les rues du Chélard. Les gendarmes y pouvaient venir, hein. Elle les attendait.
Eh bien, cette émission, je crois qu'elle y est toujours là-bas dans ses cassettes d'RDB. Hein, parce qu'il y en a des cassettes qui vieillissent mal. Hein, c'est vrai que moi j'en ai, là, elles ont très mal vieilli. Mais des fois, je pique quelques chansons. Mais la Maria Vigouroux, tu te souviens bien de cette émission, parce que c'est toi qui faisais la régie, peut-être.
Oui. Non, c'est moi qui l'interviewais.
Il y avait un truc que je connaissais d'elle, moi, pour l'avoir entendu par des gens. Tu n'as jamais pu lui le faire raconter. Un jour, ses enfants, ses garçons, ils avaient une moto. Alors elle prend cette moto et puis elle part dans les rues du Chélard. Elle a jamais su arrêter cette moto. Elle a roulé tant qu'il y avait de l'essence.
Et qu'est-ce qu'elle criait dans les rues du Chélard?
Alors elle disait, gare à vous!
Ce qui veut dire, enlevez-vous, autrement je vous écrase. Jamais j'aurais pensé qu'à un certain âge de me mettre dans une radio et de se trouver si longtemps avec. On a chopé le virus, comme tu nous avais dit. La radio, c'est un virus. On le chope ou on ne le chope pas. Eh bien, moi, je l'ai chopé en plein. Tout ça sur RCL, RCL AC, antenne chaloise à l'époque. Ouais. Et puis ça s'est tourné RDB.
Voilà.
Et on est toujours là.
Alors on va donc, parce que malheureusement vous pouvez pas être présent dans l'émission de Noël, donc on va souhaiter un joyeux Noël à tous les gens qui nous écoutent et tous les gens que vous rencontrez régulièrement et les personnes âgées qui sont seules aussi, parce que ça c'est pas évident.
Ah oui, malheureusement il y en a beaucoup qui sont seules, oui, alors une pensée pour eux. Puis tous les malades qui sont dans les hôpitaux aussi.
Oui.
Voilà.
Alors on peut crier.
Joyeux Noël à tous.
Buona salenda à tous. Ouais. Hein, à tous nos auditeurs et auditrices. Mmh. Et à tout le monde qui nous écoute. Hier, qui nous écoute, on dit la France intègre. Il faudrait un temps que pour irait, mais il va venir un jour que, ma foi, là, je profite de cette petite intervention pour lancer l'appel. Si quelqu'un veut venir participer à notre émission, pour un jour, peut-être, qui sait, nous remplacer, on est prêt à lui aider tant qu'on pourra. Hein. Alors qu'il se fasse connaître.
Voilà. Eh bien, écoutez, bonne émission à tous et puis bonne journée.
Et merci donc à tous les deux. C'était un excellent moment.
Très gentil. Tu as été très gentil de venir chez moi. On s'est rappelé des souvenirs. Ça nous fait du bien. Hein.
Ah ben, mais ça fait du bien à moi aussi et ça va faire du bien aux auditeurs. Voilà. Donc, c'est parfait. OK, merci.
Voilà, de temps en temps, les souvenirs, c'est vrai que c'est sympa, il faut pas trop les ressasser, il faut les redonner dans leur esprit joyeux, parce qu'en fait, c'est vrai quand même que ces deux personnes d'un certain âge, puisque je vous rappelle que Jojo a passé les 80 ans, il a 83 ans, mais c'est surtout leur joie de vivre qui est vraiment extraordinaire. Et cette bonne humeur, cet optimisme, c'est vrai que c'est communicatif et je suis sûr qu'ils font un bien immense à toutes les personnes âgées et tous les malades. Voilà, on va leur offrir un lilas, tiens, par exemple. Hein, bon, ils s'appellent pas Eulalie, mais c'est pas grave, on leur donne un lilas quand même. Hein. Qu'en pensez-vous?
Suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas. Suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas. Un lilas pour Eulalie, Eulalie pour un lilas. Suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas, elle m'aimera. suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas, le même orage. En chemin j'ai croisé Lily qui voit le lilas. En chemin j'ai croisé Lily qui voit le lilas. Le lilas pour Eulalie pour un lilas. Et Lily qui n'a personne, moi le lilas je lui donne. En chemin j'ai croisé Lily qui prend le lilas et qui m'aimera. En chemin j'ai croisé Lily qui prend le lilas et qui m'aimera. Mais déjà Lily m'abandonne, Lily s'en va. Près de moi je n'ai plus personne et plus de lilas. De lilas pour Eulalie, Eulalie pour un lilas. Et Lily qui n'a personne, moi le lilas je lui donne. Mais déjà Lily m'abandonne, Lily s'en va, ne m'aimera pas. Mais déjà Lily m'abandonne, Lily s'en va, ne m'aimera pas. Suis retourné cueillir alors un autre lilas. Suis retourné cueillir alors un autre lilas. Du lilas j'ai pris le lit pour dormir quand vient le soir. Et du lilas de la lit reste un là pour ma guitare. Et demain j'irai pour de bon chanter mes chansons, elles m'aimeront. Et demain j'irai pour de bon chanter mes chansons, elles m'aimeront. La 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 la.
Voilà ce fameux Yves Duteil. C'est joli d'ailleurs, chanter ça très vite. Il y a toujours des paroles assez extraordinaires et de très belles musiques aussi, disons-le. Alors on va retrouver maintenant, toujours lors de l'émission que nous avions fait pour Noël, on avait eu la chance d'avoir avec nous Mick Chanu, qui est le plus vieil animateur de la radio.
Quelque chose comme
90 ans. Hein.
Qui a été baigné là-dedans dans ton enfance.
Ah oui, ça c'était quand même un livre de chevet, si on peut dire,
ouais.
Les lettres de Montmoulin. Et d'autant plus que j'ai eu l'occasion de me rendre très souvent au Moulin d'Alphonse Daudet, parce que ma nièce, qui a très bien connu Gilles, puisque vous étiez, vous avez fait partie d'un groupe folklorique à Lyon, quand tu étais lyonnais.
Oui, je suis pas parfait. C'est pas un groupe folklorique, mais oui, Josette, oui.
Voilà.
On allait dans un cercle où il y avait des Ardéchois de Lyon.
D'accord. Mm. Et lorsqu'elle était enseignante dans un lycée d'Erle, elle habitait avec son mari à Fontvieille.
Justement. Ah voilà,
et,
oui, d'accord.
Et la maison qu'ils occupaient se trouvait à 150 mètres du moulin d'Alphonse Daudet. Donc c'est pour ça que je suis très sensible au moulin d'Alphonse Daudet.
Alors bien évidemment, aujourd'hui tu vas nous offrir d'ici un quart d'heure environ un petit moment spirituel. On attend ça aussi avec impatience. Moi je t'ai écouté ce matin, j'ai beaucoup aimé les chants que tu avais passés. Et je trouve quand même assez extraordinaire qu'une personne d'un certain âge arrive à se lever très tôt le matin pour venir à Radio des Boutières tôt, quoi, il faut le faire, venir à 7h du matin par le froid, tu as l'écharpe autour du cou, allez, à vous.
Je dois avouer que très souvent quand même je m'enregistre à la main. Mais en fait, il faut reconnaître que pendant des années, des dizaines d'années, effectivement, je venais directement.
Tu venais en direct, oui. À l'époque, ouais. Des focolari.
Si je suis embarqué, si on peut dire, dans les émissions religieuses à la Radio des Boutières, c'est un peu à cause de toi, parce que c'est toi qui m'as entraîné dans cette aventure.
C'est encore ma faute.
J'étais venu en novembre 81, tout au début de la RCAC, ouais, ouais. Te trouver parce qu'il y avait un orchestre international, Gene Rosso, c'est l'orchestre du mouvement des focolari, qui se produisait à Valence, et j'étais venu demander si je pouvais venir faire un peu de publicité. Donc j'avais amené leurs disques, c'était des 33 tours à l'époque, et après mon intervention, tu m'as dit, dis donc, c'est un peu engagé ton truc, je t'embauche. Parce qu'à l'émission religieuse, tous les dimanches matin, de midi à midi 20.
Oui, c'est vrai.
Voilà, et c'était, c'est comme ça que j'ai démarré, et après ça a suivi, quoi.
Lâché.
Non, j'ai pas lâché, et tant que j'ai la force de le faire, je continue.
C'est bien, voilà. Continue encore.
Je voudrais quand même bien trouver un remplaçant, donc là, je lance un appel. Quand même.
Alors, c'est dit.
Voilà, donc, une question intéressante, vous savez que nous avons toujours des émissions extrêmement culturelles, et la question que nous sommes posées, qui était finalement l'inventeur de la pince à linge, parce que c'est vrai que c'est quand même au niveau de la culture, c'est fondamental de savoir qui a inventé la pince à linge entre nous et d'après vous. Vous savez, vous?
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'ignorez pas que nous allons bientôt célébrer le 100e anniversaire de la mort de Jérémy Victor Hoppe-de-Beck, le génial inventeur de la pince à linge, mort il y a 77 ans, victime de son invention. Pierre Dac et Francis Blanche ont écrit à la mémoire de ce bienfaiteur de l'humanité une œuvre pour laquelle un jeune musicien méconnu mais plein d'avenir, j'ai nommé Ludwig van Beethoven, a composé après 4 essais infructueux une 5e symphonie. Veuillez écouter Gloire à Jérémy Victor Hoppe-de-Beck, cantate.
La pince à linge, la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge, la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge, la pince à linge,
la pince à linge.
En 1887,
par un nommé
Jérémy Victor Hoppe-de-Beck,
fils de son père
et de sa mère,
neveu de son oncle et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur
et frère de lait, un marchand de beurre.
La belle histoire
déjà quand il était enfant,
il montrait à tous les passants
son curieux esprit compétent.
Il inventait des appareils
pour espionner les groseilles,
des muselières pour les fourmis.
Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hoppe-de-Beck.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de lui bec jusqu'à la mec, il n'y a
qu'un si chouette mec,
Jérémy Victor Hoppe-de-Beck.
Un peu de respect, Beethoven. Andante con moto.
Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent passage.
Ils font ton linge fin et trop léger une pince pour le pincer, pour le pincer,
pour le pincer,
le pincer.
Et dès lors dans sa tête, l'obsession qui l'inquiète,
le passé,
puis un jour, il l'avait trouvé.
Vous savez pourtant bien qu'on n'applaudit pas comme ça entre les mouvements d'une symphonie. Allegro, malon troppo.
Prenez le petit morceau de bois que vous assemblez en croix.
Avec un petit bout de fil de fer
et un ressort en travers.
Vous saisissez cet instrument
entre votre pouce et votre index.
Vous le serrez en appuyant
afin qu'il soit bien circonflexe. Alors, vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez.
Et ça tient!
C'est ainsi que Jérémy Vitron, homme de bec, dans un éclair de son génie ainsi doté, et avant-hier une blanchisseuse du monde entier, d'une passe à l'âge qui protégera la liberté de l'humanité. Passe à l'âge, grâce à toi maintenant, nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent, et nos cales sont dorénavant répondront présent. Amis chantons en cœur, la louange et l'honneur de notre répéteur. Gloire à Jérémy Victor Hottebec, Jérémy Victor Hottebec, Jérémy Victor Hottebec.
Bec, 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 bec.
Évidemment, on pouvait difficilement faire autrement que parler comme ça d'un final de Beethoven, puisque toutes ces symphonies se terminent toujours de la même façon, toujours les bam, 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 et on ne sait jamais comment ça, puis bam, ça reprend. Bon, ça c'est du Beethoven, évidemment, un peu moqué, mais bon, c'est joli, j'aime beaucoup. C'était les Quatre Barbus, un groupe de chansonniers, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est vrai que ça a disparu, tous ces gars, les frères Jacques, les Quatre Barbus, évidemment, Francis Blanche et Pierre Dac qui sont cités dans ce morceau. Peut-être on les retrouve dans Shirley et Dino, qui essayent de faire une sorte de pantomime assez génial. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, en tout cas. Bref, les Quatre Barbus, c'était toute une histoire. Bon, les Moody Blues, écoutez-moi ça. Et puis, en plus, on va parler d'une personne extraordinaire du Chelard que beaucoup de gens ont connu, qui s'appelait Maria Vigourou. Alors, on lui rend un petit hommage. D'abord, les Moody Blues.
Yes, I love you. Oh, 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 c'est pas tout jeune, hein, cette histoire de Nights in White Satin, hein, mais ça rappelle des bons souvenirs. Qui n'a pas dansé sur ce slow?
Ah, parce que c'était un slow, c'était pas une...
C'était une bourrée.
Ouais, c'était une bourrée.
C'était une bourrée au herniate.
Dansée par la célèbre Maria Vigourou.
Oh, Maria Vigourou. Tu l'as bien connue, Mick, toi.
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai conservé la cassette de l'interview que tu avais faite d'elle. C'est un monument. Hein.
Ah, si, ça serait bien. J'aimerais bien qu'on puisse refaire un DVD là-dessus, un CD.
Comme le disait Jojo tout à l'heure, le... Le problème, c'est que ces cassettes ont quand même mal vieilli.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
L'audition n'est pas parfaite. D'accord. Mais c'est vraiment extraordinaire.
Ça serait quand même intéressant de faire peut-être des CD qu'on pourrait mettre peut-être à disposition des auditeurs, ouais. Moyennant un forfait que Gilles décidera. dont Gilles décidera le montant, en fait, c'est ton boulot.
Hein, ouais. Entre 0 et 1000 euros, quoi.
Voilà, enfin, dans ces eaux-là, après, on doit.
Faut laisser une petite marge, quand même.
Oui, bah, oui, on a fait, oui, on a fait. Ou alors, on peut faire donativo, c'est pas mal, ça, donativo. Aussi.
Donativo, oui.
Ouais, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent, ouais. Quoi.
C'est le principe du pèlerinage de Compostelle.
Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça marche.
Ouais.
Ouais, non, ce serait pas mal. Tiens, lancer une souscription de cassettes, de DVD, de CD, de l'enregistrement de Maria Vigourou sur le principe de donativo. Qu'est-ce qu'en pense le président?
En tout cas, c'est un personnage. Hein. C'était un personnage. Moi, je l'ai côtoyé. J'ai fait partie d'un club des jeunes qui existait à l'époque et on animait le feu de la Saint-Jean et Maria Vigourou était là et dansait la bourrée. C'était c'était spectaculaire. Ouais. Hein. C'était.
Oh, on aurait dû filmer, quoi.
Ah oui, il n'y avait pas de caméscope, ni de...
Non, ça n'existait pas.
Voilà un personnage comme seul il peut y en avoir dans nos villages, ou en tout cas c'est ceux-là qu'on retrouve, bien sûr, comme Maria Vigourou et tant d'autres. Tiens, je me marre. Voilà, la séquence Je me marre que l'on retrouve dans toutes les semaines, normalement, dans l'émission Dans les pas du docteur Francus. En ce moment, nous sommes dans une période de rediffusion, des rediffusions d'anciennes émissions. Nous allons, dans quelques instants aussi, parler d'un autre village. Nous allons quitter un petit peu l'émission de Noël, qui était une émission de rétrospective, où on se souvenait un peu des choses, c'était sympa. Et cette fois-ci, nous parlerons de la ville, du village des Vastres, qui était une ville à une époque et qui est devenue, malheureusement, un petit village. En attendant, eh bien, c'est Laurent Gérard, encore un comique de la région lyonnaise, bien sûr, il est près de chez nous, qui imite Jean-Marie Le Pen.
Bonjour Jean-Marie Le Pen.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Depuis que vous avez renoncé à vous présenter aux prochaines élections en région PACA,
Oui. Vous
devez avoir du temps libre.
Effectivement, et j'ai donc décidé de renouer avec mes activités phonographiques passées. Et, cette fois-ci, n'est-ce pas, je tiens à rassurer mes détracteurs, ce ne sera pas pour diffuser les discours d'Adolf Hitler, de Mussolini ou de mon cher maréchal Pétain. D'ailleurs, oui. L'on a été injuste avec lui à la Libération.
Oui, ben ça vaut peut-être mieux. Hein.
Oui, mais cette fois, vous allez voir, je vais me lancer dans la chanson.
Ah, et quel chanteur allez-vous produire, Jean-Marie Le Pen?
Moi-même dans des reprises.
Moi-même.
Moi-même dans des reprises d'un de mes amis chanteurs.
Mais de quel chanteur s'agit-il?
Claude Francisque. Je vous ai apporté la maquette qui est un petit peu, n'est-ce pas, la promotion de ce nouveau disque. Et croyez-moi, ça va cartonner.
Il renonce à la région PACA et il renoue avec la chanson. Retrouvez Jean-Marie Le Pen dans la compile des grands succès de Claude Francisque.
J'ai besoin qu'on m'aime, et personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ces calembours qui sont plus forts que moi? Je suis mal aimé.
Jean-Marie Le Pen, son grand retour, ses grands succès. À Vichy au soleil.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. À un panzer s'en va, au mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour tirer dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les tranchées. À Vichy au soleil, c'est une chose qu'on n'aura plus jamais. Chaque fois c'est pareil. Le maréchal était très très beau. C'était super pour les collabos. Il faisait beau sur les routes à Vichy au soleil.
Jean-Marie Le Pen chante Claude Francisque, un disque à écouter dans les moindres détails.
Cette année-là, j'ai vu Pétain pour la première fois, car avant je ne le connaissais pas. Oh, quelle année, cette année-là! Cette année-là, la milice sentait pousser ses ailes et les nazis chantaient tous Heil, Heil, Heil. Et le public aimait ça. Déjà, les collabos étaient de beaux garçons dans le vent et tous chantaient Maréchal, nous voilà. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Le maréchal se sentait moins seul. Plus j'y pense et moins j'oublie. C'était l'année 42. C'était l'année 42.
Jean-Marie Le Pen chante Claude Francisque, inclus le tube qui a fait fureur, la Gégène extraordinaire.
J'étais un jeune para, plein de vie et de joie. Un soir d'été en Algérie, mon chef me rapporta une Gégène extraordinaire avec de gros fils verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posée par terre, elle faisait zip quand elle roulait, crash quand elle tournait, brrr, quand elle marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. Les années ont passé trop vite et justement hier, dans le grenier, j'ai retrouvé cette Gégène extraordinaire. J'ai appelé ma petite Marion et je lui ai offert. Elle était vieille et toute rouillée, mais quand on l'a posée par terre, elle faisait zip quand elle roulait, scratch quand elle tournait, brrr quand elle marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurai jamais. C'était le bon temps aussi, la Gégène.
Jean-Marie Le Pen chante Claude Francisque, un disque RTL.
Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on peut trouver ce disque. Je ne sais pas quelle est la maison de disques qui va l'éditer. Toujours est-il que c'est quand même peut-être intéressant. Allez savoir. Laurent Gérard, bien sûr, imitant Jean-Marie Le Pen à sa façon. Alors, pour repartir dans quelque chose de sympa aussi, enfin sympa et en même temps un peu romantique, vous savez qu'on est très très branché sur la biodynamique, sur l'écologie dans notre émission, et c'est vrai que c'est important. Alors, une chanson de Pierre Perret qui a été choisie par notre ami Serge, donnez-nous un jardin.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école. C'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient et des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille-pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content. De rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser. Au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser. Et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec. Que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse loin des marteaux piqueurs. Des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs. Même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise. Des jardins pleins d'animaux marrants. Ça nous changerait un peu nos parents.
Voilà tout un programme effectivement qui rentre dans le cadre de notre émission dans les pas du docteur Fancus. Vous savez que nous faisons la promotion des villages, au contraire des villes, en disant à tous les gens des villes qui en ont ras-le-bol, et Dieu sait qu'il y en a, dans la mesure du possible, bah, venez habiter dans nos villages, et puis avec les moyens de communication qu'on a, internet, etc., eh bien il y a vraiment moyen de moyenner pour changer sa vie, pour une vie meilleure. C'est vrai que un peu moins de CO2 et un peu plus d'O2, comme dirait un chimiste de mes amis, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, ça activerait le transport des globules rouges. Bon, j'arrête de parler de ce genre de choses. Nous allons retrouver tout de suite Eric qui va nous introduire, en fait l'émission que vous entendrez la semaine prochaine. C'est-à-dire, en fait, on parlera la semaine prochaine dans le cadre des rediffs d'un village de la Haute-Loire qui s'appelle Les Vastres. Alors tout de suite, maintenant, c'est Eric qui nous présente le village des Vastres.
L'émission est consacrée au village. On va parler d'un village parce qu'il y a 207 habitants des Vastres dans la Haute-Loire. Donc bonjour à tous les habitants des Vastres qui nous écoutent, on le sait, et on leur dit un grand bonjour.
Émission de Radio des Gouttières, présentée par Samuel Depart.
Alors, tous les gens ne connaissent pas le pourquoi de cette émission, finalement, Eric. L'émission s'appelle « Dans les pas du docteur Fancus ». On pourrait se demander pourquoi. Ben, en fait, tout simplement parce que nous prenons le livre du docteur Fancus et on essaye de regarder un petit peu comment ça se passe maintenant, les changements qui ont pu avoir lieu dans les villages que nous visitons. Donc, village des Vastres. Alors, Eric, tu nous donnes un petit aperçu de ce qu'on retrouve dans le bouquin du docteur Fancus concernant ce village des Vastres, situé donc... entre Failly-sur-Lignon, le Chambon, le Mazet-Saint-Voie, etc. Un patelin très sympa. On va découvrir ça tous ensemble. Il y a des choses absolument extraordinaires, notamment au niveau de l'histoire. Alors, parle-nous donc du docteur Fancus, Eric.
Alors, les textes extraits du livre du docteur Francus sur les Vastres. La visite aux Vastres m'allait fort, car ce lieu, de même que Failly, Chaudoreille, et même un petit coin du territoire appelé la Chabannerie, enclavé dans le Velay, faisait partie autrefois du diocèse de Viviers. Je n'étais pas fâché de rafraîchir dans ma tête et d'éclaircir de visu ces points d'histoire locale. Les Vastres est une ancienne colonie de Saint-Chaffre. Le catulaire de l'abbaye nous apprend que l'église en fut donnée aux moines en même temps que celle de Saint-Juin de Châteauneuf et de Sainte-Marie de Grasculosa, la chapelle Graillouse, par l'évêque de Viviers, Léo de Jarus, j'espère que je n'écorche pas le nom, le grand bienfaiteur des moines qui siégea de 1096 à 1119. Elle est alors dédiée à Saint Théophrède, dans un autre endroit. Il est dit qu'elle était détenue par des séculiers et qu'il fallut leur donner de l'argent pour en recouvrer la possession. C'est ainsi que la chose se passait, presque toujours. La commune des Vastres est située dans un terrain très fertile. C'est une grasse et forte terre, conservant beaucoup mieux la pluie que le terrain sablonneux de Saint-Agrève. Selon l'expression pays, les blés y portent chapeau.
Ah tiens, ça c'est rigolo.
Les champs de céréales y sont encadrés par de vastes pâturages, tachés, ça et là, par des bouquets d'ormes ou de frênes. Dans une de ces oasis se trouve le village où la présence d'un groupe humain est annoncée, d'ailleurs, par de grands carrés de raves, de choux, de pommes de terre. Le village ne comprend guère que 5 à 6 habitations privées, avec l'église, la cure, les sœurs et 3 ou 4 bâtiments ayant appartenu à l'ancien prieuré. Des chevaux et des vaches pèsent tranquillement aux abords du lieu et l'apparition de notre voiture ne leur fait pas perdre un coup de dent. Tandis que les chiens jappent, à qui de mieux? L'ancienne église était située sur la colline au sud du village, au quartier dit de Lachaud, à 1 kilomètre environ de la Nouvelle. On peut en voir encore quelques ruines. Elle fut détruite, ainsi que la maison claustrale, à l'époque des guerres religieuses, dit une lettre de curé, de 1762 à Dom Bourotte. Le chamoine Sauzet dit d'autre part que les Vastres étaient un village fortifié, qui fut brûlé du temps des Sarrasins. Mais il ne cite pas les sources de ces renseignements. L'église actuelle est de style roman et a une seule nef avec 4 chapelles latérales ayant chacune son autel en marbre. La façade a été reconstruite et rehaussée d'un mètre environ en 1890. Mais la porte de style gothique est surmontée d'une rosace qui en complète heureusement l'harmonie a été conservée et on peut y voir l'origine monascale du monument. Les rayons de l'ogive qui la couronne se terminent en effet par 3 figures sculptées, dont l'une, celle du sommet, représente probablement Saint-Chaffre, tandis que les 2 autres sont de simples têtes de moines, l'une à mitre, l'autre à chaperon. Cette église s'est récemment enrichie de beaux vitraux, mais l'œuvre la plus remarquable de l'église des Vastres est le tableau de Sainte-Anne et de la Sainte Vierge, qui vient, paraît-il, de l'ancienne châtreuse de Bonnefoy et dont le magnifique cadre en bois sculpté confirme le renom d'habile sculpteur de boiserie qu'avaient acquis les disciples de Saint Bruno. On nous montra dans la sacristie un beau calice venant aussi de Bonnefoy et un reliquaire contenant une parcelle de la vraie croix et des reliques de Saint François de Sales. La population est d'environ 1150 habitants. Nous sommes en 1998.
Exactement, oui.
Avec autant de protestants que de catholiques. Les protestants ont un temps officiel au Chazalet, détruit à ce jour. Beaucoup sont plutôt momiens, c'est-à-dire d'arbistes, qui sont les plus respectés, les plus estimables des protestants de cette région. Les momies ne reconnaissent pas de hiérarchie. Ils n'ont donc pas de pasteur en titre, mais il y a toujours parmi eux quelqu'un qui, sans prendre la qualité, en exerce les fonctions.
Alors c'est assez extraordinaire ce texte donc qui date de 1998 où on se rend compte que à l'époque la ville d'Évastre avait pratiquement 1200 habitants et aujourd'hui 207 habitants. Voilà, c'est vrai que c'est la désertification des régions de montagne, et très curieusement il semblerait qu'il y ait maintenant une envie de revenir, et on ne peut qu'encourager les gens et les jeunes, surtout les jeunes qui veulent venir dans nos régions. N'hésitez pas, il y aura des facilités, il y a une autre vie, quoi. C'est tout, si vous voulez élever vos enfants en dehors d'une certaine agressivité, voire du fuel et du gasoil, je rappelle toujours aux mamans, ça c'est un truc qui est... Bon, c'est le côté médecin évidemment qui ressort, mais vous promenez vos gamins, les gamins dans les poussettes sont à la hauteur des pots d'échappement, excusez-moi, mais enfin ça c'est une évidence, il faut quand même y penser à tout ça. Alors on va peut-être pas mettre des masques à gaz sur la figure des enfants, mais enfin peut-être... essayer d'éviter les rues, quoi. Enfin, je sais pas, c'est, pour moi, c'est une évidence. Ceci étant, écoutez, voilà, l'émission d'aujourd'hui se termine gentiment. On va écouter notre indicatif. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ou bien sûr, on va vous parler principalement, vous l'avez compris, du village d'Évastre. Et cette fameuse église, avec ce fameux tableau que moi-même j'ai vu et qui est magnifique, sera présenté par deux dames qui s'occupent de l'église d'Évastre. Voilà, on vous dit au revoir et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!